Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à tous et bienvenue dans Maisha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Okapi. Quelle est l'importance du sommeil? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Maisha Bora. À la présentation, Marcel Ngomombala, à la réalisation Tatima Poukou, à la mise en onde Héritier Sidiakala et Tina Salama assurent la supervision. Encore une fois, bienvenue à tous. Le sommeil a une grande importance dans la vie d'un individu car il permet au corps humain de se reconstituer. Mais voilà qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à dormir suffisamment, qui ont donc des problèmes de sommeil. Pourquoi le sommeil est-il important? Tentative de réponse dans ce nouveau numéro de Maisha Bora qui débute avec ce témoignage d'un jeune chercheur de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Il affirme quant à lui combien il est souvent victime d'insomnie lorsqu'il fait chaud.
L'importance du sommeil, le sommeil nous aide à bien reposer notre mémoire. Si nous avons beaucoup travaillé, nous devons nous reposer pour reconstituer l'organisme afin de pouvoir donner l'opportunité de faire plus encore. C'est ça le rôle du sommeil dans notre vie.
Mais est-ce qu'il vous arrive de connaître des insomnies?
Oui, il y a des insomnies parce que actuellement il y a des problèmes. Il y a les aléas climatiques qui nous amènent à trouver l'insomnie parce que s'il fait excessivement la chaleur dans la maison, comment on peut dormir? Il y a aussi des moustiques par la pollution que les gens sont en train d'engendrer. Il y a un problème des activités anthropiques. Tout cela nous amène à faire une recherche pour éradiquer ces phénomènes, de pouvoir avoir un bon sommeil paisible.
Et vous, comment est-ce que vous faites lorsque vous êtes exposé à l'insomnie? Est-ce que vous avez des petites astuces qui vous permettent d'avoir le sommeil?
Oui, pour avoir des sommeils actuellement, qu'est-ce que je fais peut-être moi-même? Il faut chercher à aérer la maison. Il faut lutter contre les problèmes de la chaleur. On peut faire la climatisation, ça c'est une façon là artificielle. La climatisation, mais qui n'est pas naturelle, mais qui est artificielle. Mais ça nous pose aussi des problèmes, cette climatisation-là, parce que si nous avons des petits-enfants, comment on peut dormir avec l'enfant, avec les ventilateurs? Tout ça, il faut maintenant faire des recherches pour avoir comment éradiquer les systèmes pour normaliser les phénomènes, atténuer les aléas climatiques. Parce que c'est difficile de les effacer, mais on peut chercher comment on peut les maîtriser, peut-être par les reboisements, par exemple. Nous pouvons avoir l'air naturel qui peut nous permettre à pouvoir bien aérer.
Le sommeil est cet état naturel qui se caractérise par une perte de conscience temporaire du monde extérieur, mais sans perte de la sensibilité sensorielle, c'est-à-dire, par exemple, on peut vous toucher ou faire du bruit qui peut vous réveiller. Et selon le docteur Ali Djou Kenji, neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP en sigle, le sommeil s'accompagne d'une diminution progressive du tonus musculaire survenant à des intervalles réguliers.
Le sommeil, comme nous le savons, c'est une activité qui est gérée par le système nerveux central, un organe plus particulier au niveau du système réticulé, ce qui règle le système éveil-sommeil. Ce qu'il faut retenir par rapport au sommeil, c'est plutôt quand nous dormons, ça paraît quelque chose de tout à fait anodin, mais c'est quelque chose de complexe lié aux différentes composantes du sommeil. Quand nous dormons, nous avons deux types de sommeil, deux composantes. Il y a le sommeil ordinaire, qu'on appelle le sommeil lent, et puis il y a le sommeil paradoxal.
Le sommeil profond.
Le sommeil profond fait partie du sommeil ordinaire, parce que le sommeil ordinaire ou le sommeil lent a quatre stades, et ce stade est fait en fonction de la profondeur du sommeil. Dans le stade 1, où vous avez pratiquement tantôt l'éveil et le sommeil, quand vous entrez, vous avez sommeil, vous sentez ce qui se passe en dehors de vous. Et puis le deuxième stade, c'est le sommeil léger. Le troisième stade, c'est profond. Et le quatrième stade, c'est plus profond. Et c'est ça qui marque la démarcation entre le stade, la composante lente et la composante paradoxal.
Il faut observer toutes ces étapes pendant une nuit, par exemple.
Oui, il faut suivre.
Les cycles là, durant toute la nuit.
Et heureusement, vous avez parlé de cycles. Quand on parle de cycles, c'est quelque chose qui doit être suivi normalement. C'est un système qui est réglé. Alors, il faut suivre ces différentes phases. Si bien que s'il y a des phases qui sont escamotées, ou certains, les troubles de sommeil maintenant tiennent compte de ces différentes phases. Vous allez voir quelqu'un chez qui le sommeil ne se limite qu'au premier stade de sommeil. C'est-à-dire, lui, tout son sommeil, il dort. En même temps, il suit tout ce qui se passe dans son entourage.
Le manque de sommeil est souvent source d'angoisse et de mal-être. Il peut arriver que vous passiez quelques nuits blanches de façon occasionnelle. Cela n'est pas du tout inquiétant. Cependant, lorsque cela devient chronique et permanent, ça peut devenir inquiétant, puisqu'à la longue, cela peut perturber votre rythme de vie et même vos activités quotidiennes. Et toujours selon le docteur Ali Njoukendji, neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, l'absentéisme, le manque de performance, de vigilance sont là les quelques conséquences d'un manque de sommeil.
Les conséquences, c'est clair que quand vous ne dormez pas bien, vous êtes dans les registres des gens qui font l'insomnie. Ce qui est pratiquement des troubles que nous rencontrons le plus souvent. La fréquence est très élevée, après de 2 à 50% selon les études. Et là, on peut présenter l'insomnie qu'on appelle transitoire. C'est-à-dire, quand c'est transitoire, le plus souvent c'est lié à un facteur qu'on peut identifier au cours d'une anamnèse avec l'intéressé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette insomnie? Ça peut être chronique, une insomnie chronique qu'on voit chez certaines personnes qui travaillent, ceux-là qui ne travaillent pas la nuit, mais ils ont été étudiants. Ben, quand vous avez, par exemple, 24 ans aujourd'hui, c'est supposé que vous pouvez terminer votre licence, mais si on vous pose la question, c'est depuis combien de temps que vous avez étudié, ça vous prend le 4/5 de votre vie. Si vous avez commencé depuis
à 3 ans, donc ça fait 21 ans d'études.
Si vous avez commencé depuis l'âge de 3 ans, même les enfants à l'école maternelle, parfois, moi j'ai un enfant qui est à l'école maternelle qui se réveille à 5 heures. Donc, il a 5 ans, il aura commencé à se réveiller à 5 heures jusqu'à ce qu'il aura terminé ses études. Vous imaginez là cet enfant, il faudrait qu'il y ait des mécanismes automatiques dans son corps, dans son organisme, qui lui permettent de se maintenir en équilibre. Cet enfant plus tard, quand je le reverrai en consultation, il présentera sûrement des insomnies, mais ça sera des insomnies chroniques liées à cette habitude. Mais, à part les deux types d'insomnies, il y a l'insomnie secondaire. Sans insomnie, l'enfant ne présentait pas les insomnies, un adulte qui ne présentait pas des insomnies, mais tout d'un coup, suite à une pathologie quelconque, qui dans les manifestations, on peut avoir des manifestations liées aux troubles du sommeil, là, le traitement est conséquent, parce que c'est secondaire, il faut le traitement est causal. Parmi ces troubles, vous pouvez avoir par exemple la somniloquie. Des enfants qui dorment pendant les sommeils, ils parlent. Il y a le somnambulisme par exemple. Quelqu'un qui dort, qui peut se réveiller, qui se met en activité, il peut aller dans la salle de bain, il ouvre le robinet et le matin vous êtes
surpris. Il n'est pas conscient de l'acte.
Il n'est pas conscient. Et le matin vous êtes surpris qu'il y a une inondation. On peut y avoir parfois des incendies, quelqu'un qui se réveille, qui ouvre par exemple sa plaque, le réchaud, et tout d'un coup, court-circuit et la maison, il y a l'incendie.
Dormir c'est très important, mais c'est tout sauf une perte de temps. Les troubles du sommeil sont nombreux, mais le plus courant, puisqu'il touche plusieurs personnes, c'est l'insomnie, caractérisé par la diminution de la durée habituelle du sommeil ou de l'atteinte de la qualité du sommeil, ce qui a de répercussions sur la qualité de l'état de vigilance le lendemain. Les travailleurs de nuit font partie des personnes les plus exposées à l'insomnie, selon le docteur Ali Njoukendji, neuropsychiatre au CNPP.
On ne dort pas la journée. La journée n'est pas faite pour dormir. Si bien que nous qui sommes même à l'hôpital, beaucoup de parents me disent « Non, mais comment le patient est là, il ne dort pas ?» Moi, je leur pose la question « Est-ce que vous dormez ? » La journée est faite pour travailler. Mais n'empêche qu'on puisse se reposer. C'est ainsi qu'on parle de sieste. Vous n'allez pas faire une sieste de plus d'une heure. Ça n'existe pas. La sieste, c'est 45, 60 minutes, tout au plus. Donc, la sieste, son rôle, ce n'est pas « Vous n'avez rien fait et vous allez siester. » La sieste, ça nous permet, au fait, des fois, de faire une bonne digestion après avoir mangé et qu'on peut siester. On ne sieste pas après avoir été fatigué. Quand on est fatigué, on se repose.
Et il y a des personnes qui travaillent la nuit, donc eux, ils sont censés travailler la nuit. Quelle attitude cette catégorie de travailleurs doit adopter en ce qui concerne les sommeils?
Effectivement, ce sont des personnes à risque.
Moi, j'ai... Les travailleurs de nuit?
Oui, ce sont des personnes à risque. Je me rappelle, dans mon expérience, j'avais reçu un pasteur qui est venu pour des plaintes seulement des sommeils, pas autre chose. Mais le traitement, c'était de savoir qu'est-ce qui était à la base. Mais il était journaliste, il passait une émission à la radio. L'émission débutait à 1h jusqu'à 3h du matin. Les heures censées pour une personne de dormir. Mais le choix est clair. Il avait même la solution lui-même à son problème. Soit de ne pas pouvoir travailler à ces heures-là, parce que normalement il devait dormir. Parce que quand j'ai parlé des cycles, c'est-à-dire c'est à ces heures-là que vous devez dormir. Mais il y a des pathologies qui inversent maintenant le cycle. Par exemple, dans la trypanosomiase, vous allez vous rendre compte parce qu'il y a un dérèglement au niveau du système réticulé qui contrôle le sommeil. En ce moment-là, le trypanosome qui est à la base de cette maladie, il interfère, il inverse maintenant le cycle. En ce moment-là, au lieu d'avoir le sommeil la nuit, vous avez tendance à somnoler pendant la journée et la nuit vous faites des insomnies. Là, cas de figure, le traitement est causal. Mais pour le cas de mon pasteur, par exemple, il fallait qu'il sache maintenant, désormais, qu'il ne doit pas se plaindre de son trouble parce que lui, son travail lui oblige de lutter contre le sommeil. Soit chercher à récupérer pendant la journée, de dormir et de dérégler maintenant lui-même par le mécanisme pour que la nuit, il ne puisse pas dormir. Parce qu'il doit être en état d'éveil. C'est ainsi que vous allez voir ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne dorment pas, ils peuvent somnoler aussi pendant la nuit, ils ont des mécanismes.
L'insomnie se définit donc par le manque du sommeil pendant la nuit, car la qualité et la quantité du sommeil est réduite par des difficultés de s'endormir et par des réveils nocturnes. Ce sommeil est ressenti comme étant non reposant et trop léger. Il se traduit alors par une journée difficile avec sensation de fatigue, des états de somnolence, une irritabilité. Très souvent, ces symptômes sont accompagnés par des troubles de l'humeur. En chérie, le docteur Aline Kenji, nous rappelons qu'il est neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP en sigle. D'après cet expert, le recours aux somnifères pour avoir du sommeil sans l'avis d'un spécialiste est l'une des conséquences de l'aggravation de la situation.
Oui, c'est bien surtout ce qui n'est pas bien, la conséquence c'est parfois, surtout si c'est l'automédication, puisque si c'est réglementé, il y a des mécanismes de gestion. Quand ils font ça, la première conséquence c'est quoi? C'est la tolérance. C'est-à-dire, si pour dormir, il avait besoin d'un comprimé d'une certaine substance ou d'un verre d'alcool, par exemple, ça lui permettait de dormir. Lorsqu'il devient, il y a la tolérance, le verre qu'il a l'habitude de prendre ou le seul comprimé qu'il a l'habitude ne lui permettra plus de dormir comme il dormait avant. Maintenant, il doit doubler, tripler,
augmenter la dose.
Ainsi de suite, on l'appelle la tolérance. Et la conséquence, la tolérance vous fait entrer maintenant dans la complication de cette consommation, c'est la dépendance. La dépendance, maintenant, c'est quoi? C'est le fait qu'on devient esclave de la substance. On ne peut plus s'en passer parce que votre sommeil dépend de ça. Ce qui se complique encore dans la prise en charge, il faut d'abord commencer par soigner la dépendance pour vous faire quitter de là. Et de là, c'est poser la question, qu'est-ce qui était à la base de cette dépendance et puis pouvoir faire un traitement causal.
Est-ce que vous recevez des cas en termes de consultations médicales? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour ce genre de problèmes de sommeil?
Et généralement, si nous recevons 10 patients, si pas les 10, en tout cas les 8 ou les 9, 80 à 90% pour ne pas dire 100%. Pourquoi? Parce que c'est une des fonctions vitales qu'on perd le plus souvent. Dès que nous sommes là, si on nous informe qu'il y a un problème qui se passe par exemple en ville ou en famille, généralement on aura l'impression pendant la journée que tout va bien, mais la nuit,
la première nuit vient en tête, on n'a plus sommeil.
La première des fonctions qu'on perd, c'est le sommeil. Même les malades qui nous viennent, quand ils nous viennent dans un tableau d'agitation, nous sommes obligés de calmer cette agitation. Et quand on calme l'agitation, la conséquence c'est quoi? Ça donne un peu de sommeil. Et c'est la première fonction qu'on peut facilement aussi récupérer. Parmi les trois fonctions que j'avais citées, l'alimentation et la sexualité. Le sommeil, on le perd vite et puis on le récupère vite par des médicaments. Mais tout en sachant qu'il faut toujours accompagner d'un traitement causal.
Docteur, il arrive aussi inconsciemment, vous êtes par exemple dans un taxi et le sommeil vous envahit. Est-ce que ce phénomène est dû au non-respect du cycle du sommeil par la personne?
Oui, ça dépend. Ça dépend. On peut être là à bord d'un taxi, après le travail, on est fatigué. La fatigue, ça fait ça. Parce que la fatigue, c'est quoi? Il y a quand même une certaine myorelaxation, les muscles ils sont vraiment en un état de repos. Et quand on est dans un état de repos, ça fait quoi? La tendance, c'est quoi? De pendre un peu son cou et puis petit à petit, vous tombez dans le sommeil. Mais d'autres, par contre, comme je parlais par exemple de la maladie du sommeil, ou des gens où il y a inversion du rythme, là, c'est-à-dire pendant la journée, il ne fait qu'il somnoler, et la nuit, il a l'insomnie, là, ça pose problème. D'autres personnes, ils dorment comme ça parce qu'ils sentent la fatigue, il a beaucoup travaillé. Ou parfois, il a même beaucoup de problèmes. Ça arrive. Mais là, il faut vraiment réglementer. Et quand on compte le sommeil, ce n'est pas seulement le sommeil de la nuit là. Mais quand on doit quantifier le sommeil, il faut prendre maintenant même les petits sommeils, plus un petit sommeil pour dire non, quelle est la quantité normale de votre sommeil par jour.
Merci de vous joindre à nous sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans Maïcha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être qui s'intéresse aujourd'hui à l'importance du sommeil. Le sommeil, nous l'avons dit, est très important dans la vie d'un individu car il permet de redonner des forces, de reconstituer les corps humains. Le sommeil est l'une des fonctions vitales du corps humain au même titre que la respiration, l'alimentation et la sexualité. Il joue également un rôle clé pour l'état de bien-être dans la journée. Suivant les explications du Dr Ali Njuke, il est neuropsychiatre au CNPP.
C'est important parce qu'on a parlé d'abord du cycle, première des choses. Et puis deuxième élément, ça fait partie de ce que nous appelons les fonctions vitales. C'est-à-dire toute personne est appelée à dormir. Je peux rappeler les fonctions vitales, vous avez en dehors du sommeil, vous avez l'alimentation et puis vous avez la sexualité. C'est-à-dire toute personne qui naît dès la naissance, il entre dans ces différentes fonctions, le sommeil, l'alimentation et la sexualité. Si bien que pour connaître, par exemple, que cette personne est en très bonne santé mentale, on peut seulement voir ces éléments, ces différents aspects. Si dans votre vie, vous êtes déjà arrivé de perdre le sommeil, de perdre l'appétit, de perdre le goût de la sexualité, c'est quelque part, vous avez un problème de santé.
Il faut observer combien d'heures de sommeil pour un adulte normal.
Oui, on dit 8 heures de sommeil et c'est l'heure de sommeil décroît en fonction de l'âge. C'est-à-dire les enfants, ils dorment beaucoup plus que les adultes. Et la distribution, ce qui est important, la distribution du sommeil, c'est fait, les cycles de sommeil, vous avez le sommeil lent et ensuite le sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal intervient chaque 90 minutes, c'est-à-dire quand je dors à minuit, à 1h30, normalement, je dois déjà entrer dans le sommeil paradoxal. C'est dans le sommeil paradoxal que vous intervient les différents rêves, différents cauchemars, ainsi de suite. Dans les sommeils lents, dans les sommeils ordinaires, vous n'avez rien, vous dormez. Mais lorsque vous avez des troubles où votre sommeil ne se limite que dans le premier stade où vous avez l'intrication entre l'éveil et le sommeil, là ça pose problème. Donc chaque 90 minutes normalement, on doit avoir un sommeil paradoxal.
Ce sont les étapes, hein. Donc vous commencez par la première étape, et puis la deuxième étape. Au bout d'une heure 30 minutes, c'est ça.
Si bien que s'il y a des stades que vous ne respectez pas, la conséquence serait vous allez raccourcir votre temps de sommeil. Et s'il y a des stades qui se prolongent, la conséquence, vous allez avoir un temps supérieur au temps normal du sommeil. Et vous savez, que ça soit inférieur ou supérieur, ça pose problème. Quand vous dormez trop, au réveil, vous avez aussi des fatigues. Quand vous ne dormez pas beaucoup, au réveil, vous avez encore envie de prolonger le sommeil.
Sachez que le sommeil n'est pas un état continu, il existe plusieurs cycles pendant le sommeil. On parle de 4 à 6 cycles de sommeil dont chacun dure environ 90 minutes chez l'adulte. Et chaque cycle de sommeil comprend plusieurs phases, à savoir sommeil lent, léger ou profond, puis sommeil paradoxal d'après le docteur Ali Njukenji. À la fin de chaque cycle, il peut y avoir un court réveil suivi par un nouveau cycle de sommeil ou parfois par un réveil complet.
C'est question de quantifier quand on dit 8 heures. C'est à vous de savoir si vous devez vous réveiller à 6 heures. Donc vous devez déjà dormir à 20 heures. Parce que 20 plus 4, ce sera minuit, ainsi de suite. Et le poids de la vie aujourd'hui, ça pose problème. Si nous devons rester dans le principe, quand on dit 8 heures de sommeil, à notre âge, c'est pour les, déjà à l'âge, chez les enfants, c'est 8 heures. Chez nous, ça baisse petit à petit. Vous allez vous rendre compte que même les 8 heures-là, vous ne saurez pas le faire. Donc, le principe, c'est de respecter les heures. Il n'y a pas que les heures de sommeil, il y a les heures de travail. Il y a 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures aussi de sommeil. C'est ce qu'il faut respecter et répartir en 24 heures.
Mais parfois, il nous arrive aussi de dormir sans pour autant rêver. Est-ce que cela est normal?
C'est pourquoi je parlais des cycles de sommeil. Je parle de sommeil lent et sommeil paradoxal. Le rêve, le cauchemar, tout ce que nous faisons, c'est dans le sommeil paradoxal. Et quand vous parlez, est-ce qu'il faut rêver, ça dénote maintenant d'un autre domaine des rêves. Mais on va dire un petit mot. Au cours d'un sommeil, on peut avoir 1001 rêves, mais qu'on ne retient pas tout. Le rêve qu'on retient dans le principe, le rêve qu'on retient, c'est le rêve qui n'a pas abouti. C'est ce rêve-là qu'on retient, c'est-à-dire, j'étais en train de dormir, je rêvais de quelque chose, et puis tout d'un coup, ça n'a pas abouti, et tu te réveilles, et c'est ce rêve le plus souvent qu'on appelle cauchemar. Parce que généralement, on se réveille avec des manifestations, sursaut. Oui. Pas nécessairement cauchemar qui c'est un mauvais élément, ça peut être quelque chose de bien, et tu es surpris, et tout d'un coup, tu te réveilles, ah! J'avais envie de quelque chose, voilà ce que j'ai rêvé. Ah, c'est mal le sommeil. Et c'est ce rêve-là qu'on retient. Et l'expérience, malheureusement, les gens ont tendance parfois à poser des questions. Quelqu'un qui vous raconte son rêve et vous lui posez des questions. Vous allez vous rendre compte qu'il aura des difficultés pour vous donner des détails. Ce sont des images un peu éparses qu'il retient. Et on va plus loin. Et quelqu'un me posait même la question, il dit si un aveugle peut rêver. Et ça aussi, c'est un élément très important parce que c'est la mémoire. C'est-à-dire, un aveugle de naissance, c'est difficile parce que le rêve n'est pas que visuel. On peut rêver par la sensation, on peut rêver par l'audition. Donc, même un aveugle peut rêver aussi dans d'autres organes de sens. Mais si c'est un aveugle de nature, de naissance, ça sera difficile d'avoir des rêves visuels. Mais si quelqu'un qui a déjà vu et il est devenu aveugle par la suite, il peut rêver. Mais les rêves qu'il aura, ce sont des rêves, des souvenirs, des mémoires. Et le cerveau,
qui sont restés dans le subconscient.
Voilà, qui sont restés dans le mémoire, dans son lobe frontal. Et ce rêve-là, le mémoire-là, puisqu'il n'est plus activé, ça peut rester comme ça jusqu'à 20 ans après, on perd ses souvenirs.
Une bonne nuit de sommeil réparateur, tout le monde en rêve. Pourtant, rares sont ceux qui peuvent revendiquer avoir régulièrement un sommeil suffisamment réparateur. Pour preuve, le problème de sommeil sont une plainte très fréquente et bien connue des médecins. Il faut savoir que le sommeil réparateur se caractérise par la qualité du sommeil qu'on a observé durant une nuit. Le lendemain, si l'on se sent reposé et qu'on n'a pas de difficultés à sortir de son lit, c'est qu'on a bien et suffisamment dormi. Le corps est prêt à attaquer la journée du bon pied. Si l'on éprouve du mal à sortir du lit, qu'on se sent fatigué dès le matin et somnolent pendant la journée, c'est que l'on n'a pas suffisamment récupéré pendant la nuit. Selon le docteur Zhou Kenji, nous rappelons qu'il est neuropsychiatre au CNPP.
Ah bon, le sommeil réparateur, c'est autre chose. Mm-hmm. Le sommeil réparateur, vous avez, il y a un adage qui nous dit souvent que la nuit porte conseil. C'est-à-dire quand nous dormons, le cerveau ne dort pas. Quand nous dormons, le cerveau ne dort pas. C'est ce qui fait que on peut être là avant de dormir, on avait un problème, même une équation mathématique, une formule mathématique qu'on ne comprenait pas, une intégrale. Moi, je me rappelle quand on était au collège, à l'internat, ça nous arrivait. Vous dormez, vous avez des difficultés, mais parfois tu te réveilles même à la moitié de la nuit, tu te réveilles parfois dans les noirs, tu griffonnes quelque chose. Ça veut dire quoi? Même quand tu dormais, le cerveau a continué à pouvoir penser et à trouver une solution. Et le sommeil réparateur survient lorsque vous dormez suffisamment. Le sommeil doit réparer quelque chose quand vous avez travaillé. Et le plus souvent, le sommeil réparateur survient après une satisfaction. C'est-à-dire, je peux travailler, je suis épuisé, j'ai beaucoup travaillé, et puis je dors. Et tu as l'impression, quand tu te réveilles, tu te sens vraiment à l'aise. C'est ainsi que, dans certains mêmes types de traitements, les gens qui font parfois la dépression, les gens qui font le surménage, on leur demande parfois. C'est difficile de dire qu'il faut avoir un sommeil réparateur. Il y a certaines personnes qui ont ce sommeil après avoir posé certains actes. Par exemple, même des rapports sexuels. Il y a des gens chez qui on leur prescrit des rapports sexuels thérapeutiques. C'est-à-dire, face à ce problème, il n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose, on lui dit non, trouvons une autre fonction vitale au-delà du sommeil. Peut-être que derrière ça, il pourra avoir un sommeil.
Pour avoir un bon sommeil, prenez l'habitude de bien entretenir et bien aérer votre chambre. Ce n'est pas tout. Les experts recommandent aussi de réduire la consommation de l'alcool, éviter du café, du tabac et apprendre à manger léger. Assurez-vous d'avoir une bonne literie, c'est-à-dire un bon lit, un bon matelas, car les réveils nocturnes sont parfois causés par un matelas trop mou ou un oreiller trop épais. N'oubliez pas aussi de lutter contre la présence de moustiques dans vos chambres à coucher, conclut le neuropsychiatre Dr Ali Njou Kenji.
Commence d'abord par les moustiques. Hein. Les moustiques, c'est notre dada de tous les jours. Combien de gens acceptent de dormir sous des moustiquaires? Il y a parfois des maladies des mains sales. Il y a des gens qui dorment sur des lits avec des punaises. D'abord, la propreté, c'est très important, la première des choses. La propreté, deuxième, c'est l'espace. Il faut voir avec la promiscuité que nous avons dans nos maisons, sur un lit, quand vous dormez sur un lit, 4 personnes, ça pose déjà problème. Le soleil, les problèmes environnementaux, problèmes climatiques, c'est évident. Mais il faut prendre quand même des mesures pour compter. Moi, je me rappelle dans d'autres quartiers de Kinshasa, quand il fait très chaud, c'est pratiquement tout le monde qui dort sur les avenues. Hein. Mais parfois, sur les avenues, on dort quand même. Bon, les maisons.
Parce que de l'air passe par là et puis.
Oui, mais il n'y a plus d'arbres, hein. Ça aussi c'est un autre problème. Donc c'est question de se discipliner, de se dire qu'il faut quand même dormir parce qu'il y aura des répercussions demain. Même pas tant qu'il a fait chaud aujourd'hui. Il peut faire chaud 5 jours. Vous allez perdre 5 jours de sommeil et il y aura des répercussions sur votre rendement professionnel.
Et il y a certaines personnes qui prennent, dans l'idée, nous le voyons généralement, les gens qui recourent au café, qui est un stimulant, qui retarde les sommeils. Est-ce que c'est une pratique à conseiller? Le verre de nouilles, hein, il recourt également à ces types de stimulants.
Et bien, les conséquences, d'abord sur le plan somatique. Le café, il y a des gens qui font par exemple l'hypertension, chez qui on interdit, on proscrit les cafés, les caféines, ainsi de suite. Là, c'est un problème. Mais comme on a parlé des cycles, vous vous rendez compte que quelque chose, c'est comme si on faisait un lit d'un fleuve qui doit couler à un certain moment. Donc vous devez créer une chute pour faire un barrage et tout d'un coup, vous devez faire le contrepoids. Le sommeil vient, vous prenez quelque chose pour lutter contre le sommeil. Je vais vous donner une bonne illustration. Les gens qui utilisent par exemple le Valium, le diazépam, à un certain moment on a proscrit. Pour l'instant on a proscrit, n'importe qui ne peut pas l'acheter sans ordonnance médicale. Il y a des jeunes qui prennent, ils peuvent prendre 10 comprimés de diazépam, ils prennent, ils avalent. Mais le diazépam, c'est un mieux relaxant. Il va faire que non, les muscles ne soient plus en activité, en repos. Tout d'un coup, la conséquence, c'est que vous serez obligé de dormir. Mais lui, à ce moment-là, il ne dort pas. Pourquoi? Parce que le cerveau, le fait de prendre le produit, le cerveau se repose, c'est comme s'il dormait. Mais lui, en périphérie, sur son corps, il ne dort pas. La conséquence, c'est quoi? Il utilise ça comme une levée des inhibitions. Ce qu'il ne pouvait pas faire sans ce diazépam, parce qu'insulter quelqu'un, poser certains actes, il ne peut pas les faire. Il lève ses inhibitions en consommant, il va commencer à poser des actes. À la fin, quand vous lui posez des questions sur ça, son cerveau ne va pas garder ça en mémoire. Parce que pendant qu'il posait cet acte-là, le cerveau dormait parce qu'il avait pris. C'est un peu la même chose. Et quand j'ai sommé, je prends le café. Essayez de faire ça même quand on fait étudier. Tout ce que vous aurez étudié après avoir pris du café, vous n'allez pas retenir, vous aurez des difficultés pour pouvoir remettre ça.
C'est par ici que s'achève le magazine Maïcha Bora consacré à l'importance du sommeil. Rassurez-vous que vous n'avez pas souvent des troubles de sommeil. Si c'est bien le cas, allez voir un spécialiste. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Tati Mapoukou qui a réalisé ce magazine, mis en onde par Héritier Sidiakala et supervisé par Tina Salama. Au micro, c'était Marcel Ngombala. Au plaisir de vous retrouver nombreux dans un prochain numéro de Maïcha Bora. Au revoir à tous.